le journal de la mi-journée avec Inès Lorangopo. Inès, bonjour.
Bonjour Ghislain, bonjour à tous au sommaire de cette édition. Reprise normale de la circulation ce matin sur l'axe Bélogo-Garambolaï. Pendant 3 jours, la frontière a été fermée par les autorités camerounaises à cause de la situation sécuritaire qui prévaut dans la Nanamambéré. On sommaire également cette situation sécuritaire inquiétante dans la commune de Kouchoutoulou à Kwango. 2 autorités locales ont été assassinées samedi dernier par des hommes armés non identifiés. Et puis l'UNFPA dénonce les violences faites à l'égard des femmes en République centrafricaine. Prise de position faite vendredi dernier à Bangui lors de la publication d'un rapport bilan du premier trimestre 2019. Football démarrage cet après-midi de la 4e journée du championnat de la Soulique de Sagbada dans le 3e arrondissement de Bangui. À 15h, ABC va affronter le club sportif de Dombia. À la une de ce journal, la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine enfin rouverte depuis ce matin par les autorités camerounaises après 3 jours de fermeture. Vous le savez déjà, cette frontière a été fermée à cause de la signature, à cause de la situation, je voulais dire, sécuritaire dans la Nanamambéré. Les véhicules qui étaient bloqués à Garambolaï sont pour l'instant en route pour Bangui. Ceux des Bélocos sont de même en partance pour le Cameroun. Le point avec notre correspondant Daniel Mbilimbari.
C'était aux environs de 7h du matin que les autorités camerounaises ont rouvert la frontière avec la République centrafricaine qu'elle avait fermée au niveau de Garoua-Boulaye à cause de la situation sécuritaire sur l'axe Baboua-Béloko. Après cette rouverture, les activités qui étaient paralysées à Cantonné et Béloko ont repris leur cours normal. Les véhicules qui étaient stoppés à Garoua-Boulaye entrent pour l'instant à Cantonné pour se rendre à Bangui. Les véhicules et les piétons des deux côtés traversent la frontière sans aucun problème. Toutefois, le dispositif sécuritaire est renforcé du côté du Cameroun. De même qu'à Cantonné, Béloko et Zoukombo, les forces armées centrafricaines appuyées par les éléments de la MINUSCA multiplie des patrouilles sur le corridor Boire-Béloko. Malgré cette présence militaire, un véhicule qui transportait un conteneur en provenance de Bangui était pris à partie aux environs de 10 heures par les éléments de FDPC sur un couloir à bétail situé entre les villages Foro et Croisement Koundé. Mais le chauffeur s'en est sorti, sain et sauf grâce à sa vigilance. Béloko, Daniel Mbilimbari, Radio Ndeteluka.
Merci à vous, Daniel Mbilimbari.
Inès, recrudescence de l'insécurité dans la commune de Kouchoutoulou à Kwango. Le maire intérimaire de cette commune, Zakaria Amat, et son comptable Henri et Bibiane Andy Ngapa ont été abattus samedi dernier par des hommes armés non identifiés.
À en croire des sources locales, le tram s'est produit alors que les victimes se rendaient au village Goya pour des activités communales. Sylvain Marandi, député de Kwango 2, condamne ces tueries et appelle le gouvernement et la MINUSCA à la sécurisation des populations. Il est interrogé par Faustin Modesti Zegaba.
C'est avec une grande consternation que nous avons appris l'assassinat de 2 autorités de la commune de Kouchoutoulou. S'agissant du maire intérimaire de la commune Kouchoutoulou, M. Zakaria Amat, et le comptable de la dite commune, M. Henri Bibiane Andingapa, acte de barbarie perpétré par les hommes armés non identifiés en date du samedi 6 avril 2019 à 11h, alors qu'ils partaient au village Goya en tournée communale. Je me demande où en sommes-nous avec l'accord de Khartoum. Très contrit, je lance un appel au gouvernement, à la MINUSCA, de prendre leurs responsabilités, car l'heure est grave pour la population de Kwango 2 qui est abandonnée à elle-même. En tant qu'élu de la circonscription, je condamne cet acte de barbarie à l'encontre de ces 2 personnalités. Enfin, je demande que la justice fasse son travail.
Plaine des habitants de la sous-préfecture de Mingala dans la Basse-Kotto.
Ils déplorent les conditions de vie après leur retour dans la localité. Ils vivent dans une précarité liée au dysfonctionnement des services sociaux de base. Le maire de la commune de Seriba lance un appel aux autorités du pays et aux ONG de voler au secours de sa population. Igor Deskensinapai.
C'est depuis fin 2018 que les 26 000 habitants des communes de Seriba, Koto et Siriki, toutes dans la sous-préfecture de Mingala, ont commencé à regagner leur localité après le retour progressif de la paix. Ils se disent confrontés à d'énormes difficultés liées aux multiples cas de vandalisme sur les services sociaux de base. Selon le maire de Seriba, Idriss Souleymane Ambi, la situation humanitaire est frappée de plein fouet.
Nous avons beaucoup de problèmes. Nous manquons de médicaments et plusieurs personnes meurent dans des conditions déplorables. Les enfants souffrent. Les deux groupes armés, notamment Tibalaka et Sirika, ont incendié toutes les habitations de la localité, ce qui est à l'origine de la souffrance de la population. Vraiment, nous vivons dans des conditions précaires et c'est pourquoi nous demandons au gouvernement et aux ONG de voler au secours de la population.
Il précise que les élèves n'ont pas fréquenté à Mingala depuis 2 ans à cause de l'absence des enseignants titulaires et du manque de matériel didactique.
Depuis 2 ans, les élèves n'ont pas fréquenté à Mingala. Auparavant, c'était les maîtres parents qui prêtaient main forte dans les 3 communes. Mais après ces événements, ils ont peur de revenir regagner leur poste.
Depuis la réouverture de l'accès Mingala à Lindao, les humanitaires n'ont pas encore repris leurs activités dans la localité.
Igor Diaskensena Paye sur Radio Ndekeluka.
Autre point d'actualité sur les 100.9 FM, l'association pour le développement de la sous-préfecture de Satéma dans la Basse-Koto se mobilise pour appuyer la population de cette localité.
Les membres se sont réunis samedi dernier à Bongui. Il était question de débattre de la situation de l'insécurité qui perdure dans la région. Une campagne de collecte de fonds en faveur des victimes a été également lancée. Jacob Betty, ancien député de Satéma, est avec Euda Lotintiko.
Nous devrons nous organiser pour aider cette population qui sont dans un désarroi total, qui sont dans des difficultés énormes à pouvoir vivre. Cet AG cherche à ce que nous puissions prendre conscience de l'aide que nous, individuellement, on doit d'abord apporter pour que cette population puisse vivre. Ne serait-ce que constituer une certaine somme pour permettre leur de doter de choses les plus élémentaires comme le sel, comme le sucre, comme le savon. D'abord, faire en sorte que la sécurité revienne. Deux, aider à ce que la communauté internationale aide cette population-là à sortir de l'impasse dans laquelle elle se trouve.
Autre fait, les violences à l'égard des femmes demeurent préoccupantes en République centrafricaine.
Ghislaine, c'est ce qui ressort d'un rapport du premier trimestre 2019 fait par l'UNFPA. Ce document relève que beaucoup de femmes et filles subissent encore des agressions physiques et sexuelles. Dénonciation faite vendredi dernier à Bungui par cet organe des Nations Unies au cours d'un café presse organisé autour du thème « Femmes et filles centrafricaines, santé et droits sexuels et reproductifs ». Les détails avec Faustin Modestis de Gaba.
Dans ce rapport, UNFPA dénonce le fait que beaucoup de femmes et filles soient marginalisées. Elles subissent beaucoup de violences physiques et sexuelles. La plupart des filles ne sont pas scolarisées, mais plutôt contraintes au mariage forcé, ce qui constitue une entrave à leur émancipation. Le taux de mariage précoce chez les filles de 15 à 19 ans est de 55%. Pour illustration, 54% des hommes sont alphabétisés, alors que chez les femmes, seulement 32% sont lettrés, relève le document. Stéphane Ndara, coordonnateur terrain du projet VBG à l'UNFPA, présente les actions d'urgence à mener en faveur des femmes et filles pour leur avenir.
Nous avons fait des activités de sensibilisation pour informer la population sur ce que c'est que les VBG, sur comment ces populations peuvent faire pour accéder aux services et le circuit de référencement afin de leur permettre d'accéder à ces services-là. Nous avons aussi procédé au renforcement des capacités des travailleurs humanitaires sur les exploitations et abus sexuels. Il y a aussi des audits de sécurité qui ont été réalisés dans certaines localités du pays afin de déterminer des endroits à risque pour les femmes.
La directrice de la promotion et de la sauvegarde de la famille au ministère de la promotion de la femme, Melvin Julia Guéret, regrette et estime de même qu'il est important que les actions envisagées par le gouvernement et UNFPA en leur faveur soient faites le plus vite possible. Melvin Julia Guéret.
L'UNFPA ne cesse de mobiliser les fonds pour appuyer les activités et l'UNFPA accompagne le ministère pour renforcer, réviser le cadre légal et puis mettre en place des stratégies pour aider les survivants de violences basées sur le genre à se relever.
Selon UNFPA, la situation humanitaire et sécuritaire des filles et femmes reste critique dans beaucoup de provinces à cause de l'insécurité qui bat encore son plein. Les médias sont donc mis à contribution pour sensibiliser la population afin de favoriser la protection de ces personnes humaines.
Éducation dans cette édition, cette bonne nouvelle pour les élèves des villages Ndombo et Yembe dans la commune d'élevage de Pombolo.
Une école d'urgence est ouverte dans ces localités précitées. Ceci après après 2 ans de paralysie d'activité scolaire. Les précisions de Jean Balibion.
L'objectif principal de cette école d'urgence vise à éviter le spectre de troisième année blanche dans la zone. Il s'agit aussi de donner la chance aux enfants en âge scolaire de continuer leurs études. Plus de 1000 élèves ont été enregistrés à l'espace d'une journée. Au total, 16 enseignants ont été déployés dans la zone pour la mise en œuvre de cette activité scolaire, précisent les autorités éducatives. Dans le même sillage, le 10 secteur scolaire est classé en zone pédagogique 2. Pour mieux accompagner ces élèves, des kits scolaires sont également distribués, à savoir les ardoises, les cahiers, le stylo, crayons et les instruments géométriques fournis par l'UNICEF. Rappelons que depuis le déclenchement de la crise militaro-politique dans la région, cela a complètement paralysé les activités pédagogiques dans le 10 secteur. Les parents sont très contents de voir leurs enfants reprendre le chemin de l'école et remercient les autorités éducatives du Sud-Est pour cet acte. Jean Balipio, Bangassou, Radio de Koloka.
Direction à présent la préfecture de la Mambéré-Kadéi avec ce début de solution à ce grand fossé qui empêche la circulation des véhicules à l'entrée de la ville de Berberati sur l'axe Carnot.
Le fossé qui pose obstacle est en train d'être bouché par la société forestière Timberland. Les explications de René Pierre Ndoumbé sur place à Berberati.
Lorsque vous entrez dans la ville de Berberati en empruntant l'axe Carnot à environ 1 km, un grand fossé empêche le passage des véhicules, motocyclettes et bicyclettes. Pour faciliter les choses et dans peu de jours, la société forestière Timberland s'est engagée à boucher ce grand trou. Des grumes de bois sont entassées dans le creux doublé de latérite, une satisfaction de la population face à l'évolution des travaux. Dans quelques jours, rejoindre le centre-ville sur ce axe ne demandera plus des milliers de mètres à parcourir. Joseph Kela Keba, conseiller municipal chargé de la voirie, demande aux ressortissants de Berberati de contribuer financièrement afin de finaliser les travaux de canalisation. Il faut dire que pendant les préparatifs de la Journée mondiale de l'alimentation à Berberati, l'Office national de matériel avait procédé à des travaux sur ce fossé. Malheureusement, ces travaux n'ont pas fait long feu. René Pierre Ndoumbé, Berberati, Radio Ndekeluka.
Actualité africaine en bref, en Algérie, Abdel Kader Ben Salah, nommé président par intérim du pays.
Le Parlement algérien a officiellement confié ce mardi la présidence de la République au président du Conseil de la Nation, Abdel Kader Ben Salah, une fonction qu'il assurera pour un intérim de 90 jours maximum conformément à la constitution du pays. Abdel Kader Ben Salah a été à la tête du Sénat depuis près de 17 ans. La page sport. C'est avec vous, Juvenal, pour répéter. Bonjour.
Bonjour Inès, bonjour à tous.
Football, démarrage de la 4e journée du championnat de la Soulique de Sabado dans le 3e arrondissement de Bangui.
Cet après-midi à 15h, ABC va affronter Club Sportif de Dombia. Demain à la même heure, Jeunesse Sportive de Dombia sera face à FC Bibalé.
L'école de football pour la paix Ecofop de l'association Les Frères Centrafricains, dotée en véhicule par l'ONG allemand WHH.
Elle lui a offert un bus pour favoriser la formation de futurs talents. La cérémonie s'est déroulée au ministère de la Jeunesse et des Sports à Bangui. Le coordonnateur de l'association Les Frères Centrafricains, Ferdinand Kaïn, salue cet appui et promet d'en faire bon usage.
Nous l'écoutons à votre micro, Juvenal.
Nous allons faire l'entretien de ce bus selon les règles de l'art, pour ne pas que ce bus-là soit surutilisé, puisse tomber en panne. Parce que ce bus-là, la sécurité, c'est aussi dans l'entretien. C'est pour ça que nous exhortons aussi tous les Centrafricains, quand ils voient passer ce bus, c'est le bus de la paix, de le laisser. Lorsqu'il y a des événements, d'éviter de lancer des pierres dessus, d'éviter de le braquer, c'est le véhicule de la paix.
Handball, la fédération centrafricaine de cette discipline s'active pour la relance du championnat de la Ligue de Bangui après 3 années d'inactivité.
Elle organise une rencontre cet après-midi avec la Ligue de Bangui et tous les clubs de cette ligue pour discuter des conditions de cette reprise.
Wilfried Bonheur Bassanganam, secrétaire général de la Fédération centrafricaine de handball, donne plus de clarifications. Il est interrogé par vous, Juvenal.
Une grande réunion est prévue pour la journée de mardi à 16h à l'INGS, regroupant la Fédération centrafricaine de handball, la Ligue de Bangui et les clubs affiliés à la Ligue de Bangui de handball. Initialement, nous avons prévu reprendre le championnat à partir du 15, mais il faudrait que de commun accord avec les ligues, on essaie de voir dans quelles possibilités respecter cette date. Dans les cas échéants, il pourra avoir un petit glissement.
Et c'est la fin de ce journal en français sur Radio Ndekeluka. Merci à vous de l'avoir écouté. La version en langue nationale, c'est tout de suite.